Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, nous plongeons dans un paradoxe politique vraiment fascinant, celui des élections néo-zélandaises du 15 août 1987.
Oui, la fameuse victoire historique du Parti travailliste de David Lange, avec 57 sièges et 48% des voix.
Exactement. Mais l'énigme, en fait, elle est là. Nous avons ce gouvernement dirigé par un tribune pacifiste et profondément antinucléaire. Et ce même gouvernement mène simultanément la déréglementation économique la plus brutale de tout l'Occident.
C'est vrai que le contraste est frappant.
N'est-ce pas? La question qu'on se pose, c'est comment un même électorat a pu plébisciter deux visions du monde aussi contradictoires? Pour ma part, je suis convaincu que c'est la fierté nationale et l'indépendance morale qui ont vraiment été le moteur de cette réélection.
Eh bien, je vois les choses sous un angle beaucoup plus matériel. Je suis persuadée que ce triomphe n'était pas un grand vote de conscience collective. C'était avant tout un plébiscite purement temporaire pour une croissance économique fulgurante.
Laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que l'identité antinucléaire était bien plus qu'une simple posture. C'était vraiment la colonne vertébrale de ce mandat. Dès 1985, Lange refuse de laisser le navire américain USS Buchanan accoster dans ses ports.
Une décision très risquée d'ailleurs.
Totalement. En 1987, il va même jusqu'à faire voter une loi déclarant le pays « zone totalement dénucléarisée ». Il sacrifie sciemment l'alliance militaire Anzus avec les États-Unis. En offrant cette dignité inédite, le gouvernement a créé un bouclier émotionnel puissant qui a rendu les électeurs aveugles à la casse sociale interne.
Je comprends tout à fait l'attrait de cette lecture un peu romantique. Mais il faut vraiment regarder la mécanique économique de l'époque. C'est le ministre des Finances, Roger Douglas, qui a orchestré ces fameuses Rogernomics.
Oui, la fameuse thérapie de choc.
Exactement. Il faut se rappeler qu'avant lui, la Nouvelle-Zélande était l'une des économies les plus fermées au monde. En un temps record, il supprime les aides agricoles, il privatise à tour de bras et il fait flotter le dollar. Et le résultat direct de ça ? Entre 84 et 90, le revenu par habitant a pratiquement doublé.
Doublé, c'est vrai, mais...
Je veux dire, l'électorat urbain n'était pas aveuglé par la diplomatie. Il profitait tout simplement d'un accès fulgurant à la modernité et au pouvoir d'achat.
C'est indéniable que ces chiffres marquent les esprits. Mais j'ai beaucoup de mal à croire que ce soit le seul moteur du vote. L'économie de Douglas, en fait, elle tournait à un régime hyper dangereux. C'était un moteur trafiqué, prêt à exploser à tout moment.
Vous filez la métaphore de la voiture.
Voilà, exactement. Et la diplomatie, c'était la carrosserie éblouissante qui rassurait les passagers, vous voyez. Prenez le célèbre débat de Lange à Oxford en 85 face à Jerry Falwell. Quand Lange lui lance « Je peux sentir l'uranium dessus quand vous vous penchez vers moi », c'est un triomphe mondial.
Oui, une réplique fantastique.
Cette fierté viscérale, elle a une force de frappe électorale bien supérieure à la simple privatisation d'une entreprise publique, non ?
Cette carrosserie émotionnelle n'aurait jamais tenu sans l'argent des marchés pour la polir. Regardons simplement le calendrier. L'élection se tient en août 87. Que se passe-t-il juste 2 mois plus tard ?
Le crash.
Le grand crash boursier du 20 octobre, oui. La bourse de Wellington s'effondre de 59%. C'est la pire chute au monde. Le Parti national de Jim Bolger l'avait très bien compris. Si l'élection avait eu lieu en novembre, le gouvernement travailliste aurait perdu. C'est bien la preuve que le soutien tenait à la prospérité financière et non à la paix nucléaire.
Je suis d'accord que le crash a dévoilé la vulnérabilité extrême de cette déréglementation. C'était un choc très violent, mais honnêtement, ce n'est pas la chute de la bourse qui a détruit l'alliance au sommet de l'État. Ce qui a fait chuter Lange, c'est l'essence même de la politique interne.
Absolument, oui. Et cette politique était fiscale, pas diplomatique. Le vrai point de rupture est idéologique. Roger Douglas voulait imposer une flat tax à 15%.
Ce qui est impensable pour la gauche.
Exactement. C'est l'antithèse d'un parti de gauche. C'est une taxe où les plus pauvres payent le même pourcentage que les plus riches. Lange s'y est opposé farouchement et Douglas a démissionné. Mais quand le caucus a forcé le retour de Douglas en 89, Lange s'est retrouvé désavoué et a dû démissionner à son tour. Au final, c'est bien l'économie qui a dicté la fin de l'histoire.
C'est un point de convergence vraiment fascinant entre nous. En fait, la Nouvelle-Zélande de 87 a voté avec l'espoir de garder le meilleur des deux mondes, la boussole morale à l'international et les bénéfices de la libéralisation à la maison.
Oui, un véritable mirage en somme. Les électeurs ont cru à une révolution sans douleur. Mais quand le marché a corrigé ça, le réveil a été brutal. Ça explique pourquoi, entre 89 et 92, la pauvreté infantile a littéralement doublé dans le pays.
Ce qui prouve bien à quel point un simple bulletin de vote peut porter des attentes inconciliables. L'héritage de cette élection reste d'une complexité absolue. Merci à tous de nous avoir suivis et de continuer à débattre avec nous.